Véronique Riche-Flores, bonjour.
Bonjour
Vous
Didier.
êtes économiste indépendante. Alors, on va s'intéresser avec vous aux États-Unis et ce qui se passe sur cette économie américaine, avec la surprise pour beaucoup d'investisseurs, en tout cas, sur le fait que la Réserve fédérale américaine maintient pour l'instant son aide, certains diraient son aide artificielle, hein, au marché et à l'économie. Quel regard vous portez justement sur cette économie américaine, puisque on aurait pu se dire qu'elle allait mieux, on pensait qu'elle allait mieux, vu ce qu'a dit la Réserve fédérale américaine, on peut se poser des questions aujourd'hui.
Oui, c'est très curieux ce qui s'est passé cet été, parce qu'en réalité, on a eu vraiment l'impression depuis le mois de juin d'avoir affaire à des marchés, des opérateurs qui arrivaient à s'auto-convaincre que l'économie américaine était sur la voie d'une amélioration et que la Fed, dont acte, allait donc réduire son aide à cette économie. En l'occurrence, il y a très peu d'indicateurs qui montraient effectivement une amélioration des perspectives. Je dirais que dans l'ensemble, les indicateurs se sont plutôt détériorés, avec des signaux assez préoccupants sur un certain nombre de tendances, je pense à l'investissement notamment, ou l'emploi, qui vont imprégner les prochains mois et qui nous disent les choses sont en train de se détériorer plutôt que de s'améliorer. Alors à partir de là, effectivement, la décision de la Fed était peut-être surprenante pour les marchés. Pour ma part, je pense que c'était une décision tout à fait justifiée et que la Fed, à l'inverse, aurait pris un risque considérable à acter le changement d'anticipation des marchés. Parce qu'à partir de là, on ouvrait la porte à un changement beaucoup plus profond, plus durable, et donc à une remontée encore plus substantielle des taux longs. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout au long de l'été? C'est que l'économie américaine est très sensible et qu'elle a très mal réagi à la hausse des taux longs. On
Oui,
était
ça a été, on
pourtant
a
à
eu des
peine à
faits.
3%, et le 3% a été d'ailleurs très brièvement touché. Il n'empêche que la hausse, en particulier des taux d'emprunt hypothécaire, a heurté, a mis un point d'arrêt à la reprise immobilière. Donc, j'ai vraiment le sentiment, moi, qu'on a affaire, un, à une économie qui est encore très fragile, très fragilisée. Deux, à une réserve fédérale qui ne peut pas, du jour au lendemain, réduire. Je crois qu'à un moment donné, quand l'été, les anticipations étaient pour une réduction de 20 milliards. C'est considérable. C'est le quart ou quasiment le quart de ce qu'elle injecte depuis un an maintenant, quasiment, sur les marchés. On ne peut pas changer les choses, la donne, de cette manière-là. J'ai plutôt l'impression qu'on est parti pour un long moment encore de soutien indispensable et donc d'injections très, très substantielles qui ne vont pas changer. Au moins, pour moi, avant le printemps de l'année prochaine. Et finalement, alors on a la Banque centrale américaine d'un côté, la Banque du Japon qui a ajouté à son action, la Banque d'Angleterre qui ne bouge pas, et la BCE qui commence à se poser des questions à nouveau, une nouvelle LTRO.
Oui,
Ça veut
ça.
dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales reviennent, qu'il y a vraiment un nouveau round d'intervention et qui peut avoir des aspects, bien évidemment, et indispensables pour soutenir l'activité, mais qui prouve qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il y a encore beaucoup de questions sur l'assainissement financier. Et deuxièmement, qui pose la question, est-ce qu'on peut continuer comme ça longtemps et où est-ce quelle est l'issue? C'est la
Oui, parce
grande
que
question, je pense, de 2014.
On a effectivement, on pourrait dire que ça fait presque 15 ans que les marchés se sont habitués, notamment les marchés financiers, à travailler avec des taux quand même relativement bas. C'est quand même une période assez longue, voire la plus longue historiquement. On se demande effectivement, c'est le moindre retrait, on l'a vu, ça a un impact très important, on l'a vu aux États-Unis sur l'immobilier, mais on se dit, ça veut dire qu'on est obligé de vivre comme ça sous perfusion l'économie pendant encore plusieurs années?
Une perfusion, c'est toujours le problème, c'est que c'est facile, relativement facile de la brancher, toujours très difficile de la débrancher. Je pense qu'on était tous conscients hein, qu'à partir du moment où on mettait le doigt dans le quantitative easing, les interventions directes des banques centrales, ce serait très difficile de revenir à la norme. Et je pense qu'effectivement, on est parti pour très longtemps, sauf qu'on vit une période complètement inédite. Il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit quasiment d'un modus operandi mondial. Hein. Et qui va durer et prendre des proportions qu'on a même du mal à imaginer, sans pouvoir véritablement anticiper quelle sera la suite et quelles seront les conséquences de ces interventions. Donc je pense que pour un moment, les taux vont rester bas. Et plus ça va durer, plus on aura des risques de craquement, hein, de krach obligataire, hein, et plus il risque d'être difficile d'en sortir. Alors est-ce que ça veut dire que cette politique qui finalement est globalement peu efficace, sauf qu'elle, c'est un mur contre le risque systémique. Donc, qu'elle a beau ne pas être aussi efficace qu'on le souhaiterait, c'est la seule qui existe. Donc on ne peut pas la stopper. À un moment donné, sans doute que cette politique se montrera encore moins efficace sur la croissance. Et là, il y aura effectivement des craquements, des problèmes beaucoup plus graves sans doute. Mais
On a vu des discussions sur la personne qui pourrait succéder à Ben Bernanke. Est-ce que de votre point de vue, ça peut changer la vision de cette réserve fédérale, ou est-ce que finalement on reste dans le même schéma, c'est-à-dire on sent qu'il y a quand même des discussions?
Il y a discussion et on comprend bien pourquoi il y a discussion. On est tous à s'interroger. Est-ce que finalement on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire un tout petit peu? Est-ce qu'on n'est pas en train de... On est de toute façon en train de créer des déséquilibres. Est-ce que ces déséquilibres valent mieux néanmoins que ce risque systémique, hein, c'est la balance perpétuelle. Je ne pense pas qu'une nouvelle tête au niveau de la Fed changera la donne. En réalité, c'est vraiment une question d'équilibre et d'appréciation sur les risques et les faiblesses de l'économie américaine et mondiale, hein, en réalité. Et Yellen ou pas Yellen, je pense que là, quelque part, les choses sont déjà actées. On ne peut pas revenir en arrière aussi rapidement. Il faudra beaucoup de temps et sans doute un changement en profondeur qu'on ne voit pas pour l'instant de l'économie mondiale.
Oui, donc ça veut dire effectivement, quand on a vu ces marchés émergents touchés par les flux qui sont partis effectivement de ces pays-là, on voyait bien finalement que il y avait beaucoup de liquidités, beaucoup de flux un peu partout, et que au moindre changement ou perception d'un changement, ils sont prêts à revenir quelque part très très vite, à sortir très vite de là où ils sont.
Évidemment, parce que ces interventions sont massives, on le disait tout à l'heure, 85 milliards de dollars par mois, c'est considérable, donc ça a des effets boule de neige, si on peut dire, sur tout un tas de pans de marché ou de marché, ça redirige les capitaux vers là où il y a du rendement, il y a moins de risques, puis tout d'un coup le risque revient, il y a potentialité de plus de rendement aux États-Unis, donc les masses énormes se déplacent, hein, et ça complexifie énormément la donne. Ajoutons à cela également l'aide considérable qu'a représenté la politique de la Fed pour l'Europe. Et le jour où la Fed arrête, et on l'a bien vu, et je pense que la réaction d'ailleurs de la BCE en reparlant d'une LTRO ne vient pas tout à fait du hasard. Elle vient du fait qu'on a vu les taux longs monter et dans la foulée, à nouveau des crispations au niveau, en tout cas des interrogations sur le système bancaire européen dans de nombreux pays et sa capacité à faire face encore et à alimenter la reprise qu'on commence à avoir. Donc il y a véritablement des enjeux mondiaux qui accentue la complexité, bien évidemment, de l'exercice pour la Fed.
On pourrait dire aujourd'hui que sur le plan économique, on est moins avancé aujourd'hui, quelque part, sur cette perception des prochains mois qu'on ne l'était encore cet été. C'est-à-dire que là, finalement, on se demande encore plus quelle croissance on va avoir aux États-Unis. En Europe, on en est loin, mais finalement, on est très en dessous du potentiel.
Je pense que certainement, pour les marchés, pour les personnes qui ont anticipé ce changement de la politique monétaire de la Fed comme une normalisation, finalement, oui. Si on pouvait relâcher un peu la perfusion ou la réduire, c'est parce que ça allait mieux. En l'occurrence, là, c'est retour à la case départ, ça ne va pas mieux, on est obligé de continuer. Combien de temps? Vers quoi on va? Donc tout ceci est digne, effectivement, est capable de créer beaucoup d'interrogations, d'incertitudes. Et comme vous le dites, certainement un peu plus qu'au printemps, quand on avait l'impression que les choses pouvaient enfin se rapprocher de la normale.